RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est le moment de prendre la parole avec les Gigi, avec les grandes gueules. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à midi. Bonjour mon cher Charles Consigny, maître
Bonjour
Consigny.
À tous.
Nous sommes avec Fatima Hibounois aussi aujourd'hui, la prof de français. Bonjour.
Bonjour, bonjour les grandes gueules, bonjour les grandes gueules de l'ombre et notamment Yanis qui nous écoute pour la première fois, donc auditeur tout nouveau. C'est son frère.
Bienvenue.
Qui le force. Donc on va voir s'il va devenir infidèle ou nous détester.
Nous sommes avec Antoine Diers, le consultant juridique. Bonjour mon cher Antoine.
Salut Alain et bonjour à tous.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG? On a beaucoup de sujets de discussion qui, bien sûr, vont vous faire réagir. C'est ça les grandes gueules. On va reparler de Karine Lemarchand, son interview à TV Magazine, l'animatrice préférée des Français. Elle estime qu'on est en train de castrer les hommes. Le président de la République, malgré la censure du Conseil constitutionnel, veut sa loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il veut une loi robuste. Est-ce qu'il faut absolument cette loi? Jean-Luc Mélenchon dit que Bali Bagayoko et Ali Diouara sont attaqués, les deux maires, parce qu'ils sont noirs. Et que c'est du racisme de la part de la caste. Voilà des sujets sur lesquels vous allez prendre la parole au 32-16. Le premier d'entre eux, eh bien, ça va concerner le piratage de la plateforme des impôts. Est-ce qu'on est face à un véritable scandale? Est-ce qu'il faut que les têtes tombent, qu'il y ait des démissions? 32-16 pour en parler avec les GG. Après le piratage de la plateforme des impôts qui a concerné 678 000 comptes, le Premier ministre Sébastien Lecornu va présider aujourd'hui une cellule interministérielle de crise visant entre autres à préparer l'information des particuliers et des entreprises victimes. C'est-à-dire que ceux qui sont concernés vont recevoir des courriers d'avertissement. Merci, c'est gentil. Ils vont les recevoir à partir d'aujourd'hui. Écoutez ce spécialiste informatique.
La pire cyberattaque, parce que là on parle du dernier bastion en France, censé réputé être le plus sécurisé qui vient de tomber. Et surtout avec cette information qui pour moi est totalement folle et pour d'autres aussi, c'est qu'on ne découvre cette cyberattaque pas loin de 7 semaines après. Et là ça pose d'énormes questions. Je rappelle que c'est quand même un cybercriminel français qui l'a fait. Quand sera-t-il lorsque de vraies puissances, elles, commenceront à attaquer la France avec quand même beaucoup plus de moyens et des personnes beaucoup, beaucoup plus préparées?
Et il a raison, ce spécialiste de la sécurité qui était ce matin sur RMC, parce que dans cette histoire, les pirates, bon, ils sont peut-être deux, Zero Bytes, c'est leur nom, Zero Bytes, ont touché au bastion le plus sécurisé en France, c'est-à-dire le fisc, les impôts, la Direction Générale des Finances Publiques. Le Premier ministre a dit que notre doctrine restait la même: détecter, interrompre, poursuivre, informer, renforcer. Walou, mon gars. Walou. Si le pirate, il avait pas revendiqué lui-même, quand est-ce qu'on l'aurait su? Il l'a revendiqué, le pirate, l'attaque, et on a mis effectivement 2 mois, 7 semaines à prévenir les particuliers. Scandale d'État, véritablement. Faut-il des démissions? 32-16 pour en discuter avec les GG. Je rappelle que les données qui ont été piratées, c'est particuliers, professionnels et cadastres, état civil, revenu fiscal de référence, situation familiale, trop de taux de prélèvement à la source, plus des parcelles cadastrales. Donc, puisqu'en plus il y a nos mails, nos coordonnées, on va recevoir sûrement, parce que ces coordonnées, elles vont être vendues sur le dark web. Donc on va recevoir, si on est concerné, sur nos portables, eh bien des tentatives, tu vois, des escroqueries, des faux mails, etc., des phishing, et on risque de plonger. Là, je vais te dire, si tu plonges, ou si tu as l'usurpation d'identité, tu prends un avocat, tu te retournes vers l'État, et il faut que l'État, alors là, il se débrouille, il t'aide, et puis qu'il casque. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Antoine Diers, et je vous attends au 32-16.
Si seulement t'arrivais à démontrer que la fuite vient bien de l'État à ce moment-là. Moi, j'ai repris la liste de toutes les fuites de fichiers de données personnelles détenues par l'État ces derniers mois. Tu as le FICOBA, un fichier bancaire. Il y a 1,2 million de comptes bancaires qui ont fuité il y a quelques semaines. Tu as EduConnect qui a fuité. Tu as France Titre. Il y a 11,7 millions de comptes de France Titre qui ont fuité. Tu as l'INSEE, tu as France Travail, 43 millions de comptes France Travail qui avaient fuité en 2024. Bref, ça fuite de partout.
Tu peux même rajouter les attaques contre les hôpitaux, qui sont des hôpitaux publics, ou des CHU.
Ça fuite de partout, et comme d'habitude, tu connais ma fascination pour la communication gouvernementale. Tu l'as dit, une cellule interministérielle de crise va se réunir cet après-midi. Et donc, comme j'avais imaginé le plan fait chaud pour la canicule, j'imagine qu'ils vont nous sortir cet après-midi le plan éponge. Le plan éponge contre les fuites de données. Il est quand même urgent de réagir et il est urgent de trouver des responsables. À chaque fois dans notre pays, il n'y a aucun responsable. Les fuites sont dramatiques. On a plein d'équipes qui sont censées travailler sur la sécurité, la cybersécurité. On connaît l'ANSSI, on connaît plein de trucs. Mais pour autant, là, depuis plusieurs mois, tout est accessible aux hackers. Et on ne réagit pas malgré les fuites de ces derniers mois. Alors, j'espère qu'on ne sera pas cette fois-ci que dans la communication gouvernementale avec un plan éponge, mais qu'enfin, on aura une vraie action pour sécuriser des données, parce que tu l'as dit, Alain, ça peut avoir des conséquences gravissimes, et le français, il sera tout seul une fois qu'il se sera fait arnaquer.
Mais ce qui est fou, c'est ce que disait cet expert de la sécurité, c'est pourquoi on a attendu. C'est-à-dire que dès que le gouvernement a vu qu'il y avait ces fuites, ils auraient dû prévenir. Or, il a fallu... C'est le pirate, c'est les gars de Zero Bytes. Je ne sais pas s'il est tout seul ou s'ils sont deux, effectivement. Je ne dis pas qu'ils s'en sont vantés non plus, ouais. Mais qui ont dit, voilà ce qu'on a fait.
L'État avait repéré l'intrusion, mais pas le vol de données, a priori. L'État ne savait pas qu'on lui avait volé ses données. C'est fabuleux.
Charles Consigny.
Alors, au risque...
Est-ce qu'il faut que des têtes tombent ?
De vous surprendre ? Oui, sans doute, parce que je vois bien le problème que ça pourrait poser si des gens mal intentionnés s'emparent de ces données et tout ça. Je vous avoue que je m'en fous un peu de cette fuite.
C'est vrai.
À titre personnel, si mes données fiscales étaient publiées, j'en serais même heureux, parce que les gens verraient à quel point on se fout de notre gueule dans ce pays.
Bah tu devrais. En tout cas, tu devrais être en colère parce que tu payes beaucoup d'impôts et en plus les services sécurisés ne le sont pas.
Je vais te dire, j'en paye tellement que je serais heureux que ce soit public. Tu vois, ça me dérangerait pas de vivre dans un pays du Nord où il y a la transparence derrière sur ce genre de choses.
Si t'as une escroquerie, tu seras moins content.
Il faut aussi que les gens cesse de répondre à tous les textos débiles qu'ils reçoivent en renseignant immédiatement leur numéro de carte bancaire quand ils reçoivent un texto du numéro 712-18 qui leur dit urgent
confirmez
le virement de 100 millions d'euros à destination de votre femme. Ah oui, tout de suite. Faut aussi demander un tout petit peu de aux gens d'allumer leur cerveau quand même de temps en temps. Je pense qu'ils ont failli, ils ont merdé. Il paraît d'ailleurs que Bercy est en sureffectif constaté. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a deux fois trop d'agents.
Mais ils ne sont pas au bon endroit.
Que font-ils ? Voilà, on est qu'au début de ce genre d'attaque, de cyberattaque, comme tu l'as dit. Quand ce seront les Russes qui décideront de nous cyberattaquer, ce qu'ils font d'ailleurs déjà, et on ne cesse déjà d'essayer de contrer leurs attaques. On subit déjà des cyberattaques des Russes, etc., en permanence. Donc, je ne suis pas surpris. Je pense qu'il faut effectivement recommencer pour une fois à essayer de trouver des responsables. C'est comme dans d'autres affaires qu'on a eues ces derniers temps où il y a eu vraiment une espèce de demande qu'on trouve enfin des responsables. Je me souviens de l'affaire de la petite Liana, etc., ouais. Où on a mis à pied des agents et c'était bien le moins. Moi, je pense qu'il faut virer les gens dans ces cas-là. Donc, virons effectivement les responsables de la cybersécurité de Bercy. Ce serait pas du luxe, hein. Une telle, quand tu te plantes à ce point-là, dégages,
faut,
c'est normal.
Sûr,
donc, attendons de voir. J'attends de voir ce que vont décider le Cornu et Lescure, puisque sauf erreur, c'est Roland Lescure, le ministre de l'économie. Je pense qu'ils doivent prendre des sanctions. Mais je pense que au-delà des risques d'escroquerie, voir ces données fiscales publiées, personnellement, je m'en foutrais un peu.
Fatima Hidbounois.
Alors déjà, ce n'est plus une fuite, là, c'est une piscine olympique à ce niveau-là. Et ce n'est plus une fuite, on est dans les partages de données. Là, on est dans le partage de données, finalement.
Dans le partage, à la revente de données.
Oui, mais vous voyez bien que c'est tellement répété. C'est tellement massif. Antoine a rappelé très, très justement tous les organismes que ça a touchés. Je vais rajouter un autre, c'était au printemps 2026, le plus grave sans doute aussi, la NTS. Vous savez ce que c'est, l'Agence nationale des titres sécurisés. C'est là, eux aussi avaient
carte d'identité, passeport.
Vous rendez compte, là on parle d'immigration, de tout ça. Carte d'identité, tout ce qui est aussi pour les permis de conduire, pour absolument tout. Donc pour Charles a l'air un peu détendu comme ça en disant on va publier, mais c'est C'est pas ça la question. De la même manière, tu dis oui, bon, les gens doivent faire attention. Il faut arrêter de faire croire que les personnes qui se font avoir sont des idiots, parce que les arnaques vont être de plus en plus élaborées. Mmh. Et maintenant, avec vos données, ça veut dire même les techniques de vérification, vous allez demander à la personne si elle a tout sur vous, elle peut tout vous donner. De la même manière, mettre un logement en location, parce qu'elle aura toutes les infos. Vous demanderez, tiens, bah, est-ce que tu peux me prouver ? Oui, j'ai absolument tout. Ben oui, il a absolument tout, puisque tout a été piraté. Donc, les gens qui vont se faire avoir ne sont pas des idiots. Aujourd'hui, ça a changé.
Oui, mais là, dans cette affaire, moi, ce qui me gêne véritablement, c'est l'information aussi. Tu vois, c'est au moment où il y a l'intrusion c'est et le temps de la vérification, c'est une chose. Mais si ça sort pas sur un site spécialisé, si le hacker lui-même le dit pas, à quel moment est-ce que le gouvernement joue la transparence totale auprès des Français en disant, écoutez, tu vois, c'est la peur, la peur de l'humiliation, c'est la peur de dire, ben on sait pas vous protéger, tu vois. Moi, c'est ça qui me choque derrière.
Mais parce que, tu sais, on est en train de nous demander ce qu'on veut des têtes, mais ce qu'on veut, c'est du bon sens et de la logique. Là, c'est très grave ce qui est en train de se passer, dans le sens où on peut légitimement leur dire, vous nous avez poussé. Vous vous souvenez comment c'était le tout numérique, on nous a vraiment poussé à le faire.
Mais c'est pas, mais donc, c'est pas le problème. Ça veut dire, de nous pousser étiez, au tout numérique. Non, mais le tout numérique, il est là.
Laisse-moi
que l'on
finir.
Demande simplement au gouvernement qui a la plus grande puissance financière dans le pays, c'est lui, c'est l'État, c'est de mettre tout en place pour minimiser. Là, tu peux pas dire 678 000 données, 2 millions de personnes au total. Enfin, c'est pas possible.
Justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Ils ont tout fait pour nous pousser. Ayez confiance, allez-y, donnez-nous ce que vous avez de précieux. On va assurer. Et ils n'assurent pas. On est au même niveau que pour le Louvre où le mot de passe c'était Louvre. On voit bien que non, mais vous voyez, c'est la même chose. Là, on est en train de se dire le mot de passe c'était impôt. Non mais et donc ils veulent cacher. C'est le côté pas de vague parce que légitimement ça va entraîner la colère des gens. Les gens ne sont pas en colère parce qu'ils ne se rendent pas compte parce que c'est abstrait des données. Remplacer les données par de l'argent. Les données c'est le nouvel. C'est vraiment. Mais c'est comme si finalement vous avez pris aussi votre argent, en tout cas quelque chose de précieux. Et donc là, c'est le pirate qui nous a informé. Ce n'est pas l'État, c'est le pirate qui nous a informé. On en est à ce point-là.
On a Armand qui est au 3216, qui est fonctionnaire, qui nous appelle de la Manche. Bonjour Armand. Bienvenue Armand. Qu'est-ce que vous en dites ? On est face à un scandale d'État ou pas ?
Bonjour les GG.
Bonjour.
Bah, écoutez, un scandale d'État, j'ai envie de dire un de plus, un de moins, ça ne change pas grand-chose. Hein. On est sur la troisième crise depuis le début de l'été. Scandale d'État, la clim, on n'est pas foutu d'installer des clims, il fait chaud, on n'a rien prévu. Ensuite, les incendies, on n'a pas de Canadair, on n'a pas de camion de pompiers. Bon, bah là, il y a une petite fuite informatique. Qu'est-ce que je vous dis ? Moi, ça me surprend même pas, ça me fait de la peine, en fait. On est l'arrivée du monde. Alors après, on se dit, est-ce qu'il faut couper des têtes ? Bah, est-ce que remplacer un pantin par un autre, est-ce que ça va changer quelque chose ?
Je si, ne pense quand pas. Même. Quand même, virer. Oui. Moi, je pense qu'il faut virer les gens. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se retrouvent sans emploi, sans revenus. Il faut les virer purement et simplement, ce qui n'arrive jamais dans la fonction publique.
Je suis bien d'accord avec vous, Charles, et je suis très souvent d'accord avec vous, donc c'est pas vraiment une surprise. Mais je vous dis, ok, on va le virer, très bien, mais derrière, on va en mettre un autre, et je suis pas persuadé que...
L'autre, peut-être qu'il se dira que s'il se fait virer, s'il déconne, il essaiera de pas déconner.
Et puis,
en général, c'est comme ça que ça fonctionne.
Il y a la dissolution des responsabilités aussi.
Mais le pire, c'est que je pense qu'ils se rendent même pas compte qu'ils déconnent. En plus, enfin, Bercy, c'est quand même le précaré, c'est le fort le plus gardé. S'il y a bien un truc qui fonctionne en France, c'est quand même les impôts. Hein, Charles, vous pourrez en témoigner. D'ailleurs, comme vous tous autour de la table, c'est catastrophique. En fait, c'est juste.
Est-ce que ça vous inquiète vous-même pour vos propres données ou pas est-ce que vous vous dites peut-être que je suis dedans, faudra que je fasse gaffe, que je fasse attention ou pas du tout?
Bah oui, après bien entendu, si je peux éviter d'être dedans, ça m'arrange. Mais c'est vrai que c'est quand même moi, est-ce que ça m'inquiète pas plus que ça, j'ai envie de dire de toute façon.
Non mais ce qui est terrible dans cette histoire, Armand, c'est que vous faites une erreur au moment de payer vos impôts. Où vous avez un petit retard. Je peux vous dire que là, le fisc, vous allez voir la célérité des agents du fisc. Et en même temps, ils sont payés pour ça, si vous voulez, pour rattraper l'argent. Vous allez voir à quelle vitesse ça va se passer. Mais là, où c'est eux qui se font justement hacker, pirater, et c'est là où le gouvernement, je trouve que la réponse, elle est pas à la hauteur. Vous voyez, pour faire des communiqués sur des faits divers, pour parler de fermeté, pour faire des réunions, des conventions citoyennes, etc. Là, on est les champions. Mais là où on sait évidemment que le piratage depuis des années c'est devenu l'arme, l'une des armes aujourd'hui de la bataille mondiale, c'est pas possible que la septième puissance du monde se fasse pirater autant de données par un seul type. ou deux. Et je me souviens que la dernière fois, c'était un gamin de 15
oui,
ans.
C'est ça.
Un gamin de 15 ans qui avait réussi à rentrer dans un des sites spécialisés. Un pirate informatique, un bon. C'est, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui, Armand, avec l'administration, qui ne fonctionne pas, ou plutôt qui ne fonctionne plus.
Mais
quoi,
surtout,
Armand.
Il y a 10 ans. Lorsqu'on demandait des gages, lorsqu'on avait des réticences, lorsqu'on parlait justement de piratage en disant que dans l'ordre, on assure la sécurité et après on met tous ses œufs dans le même panier si vous voulez, on se moquait de nous. Ça veut dire que toute critique du tout numérique était considérée comme un refus du progrès. Et il y avait ce truc où le progrès à tout prix, et puis voilà. Mais on peut très bien critiquer le tout du numérique et justement être réticent pour ces raisons-là. Donc j'espère qu'on sera plus entendus aussi.
Armand, je vous remercie d'avoir été avec nous. On va aller du côté des Hautes-Alpes cette fois-ci. Écoutez, Soizic de la Manche, on passe dans les Hautes-Alpes. Bonjour Soizic. Soizic qui est là, bonjour. Soizic une fois, Soizic deux fois, Soizic.
Les Hautes-Alpes, tu sais, c'est loin quand même. Hein.
Oui, alors il y a peut-être des zones blanches encore, justement. On n'entend pas. Soizic est là ou pas? Tant pis, on va essayer de rappeler Soizic dans un instant. Donc, cette réunion, est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir apporter des réponses? J'aime bien le communiquer. Détecter, interrompre, poursuivre, non, informer et renforcer. Est-ce qu'on va apporter les réponses? Mais je te jure, c'est le communiqué officiel.
Rien que cette énumération de verbes, si tu veux, c'est
voici verbeux. Notre doctrine constante pour ce genre d'incident. Oui. C'est pas un incident.
On dirait ChatGPT.
Il faut pas parler d'incident, il faut parler d'attaque. Il faut employer des mots forts d'attaque. Détecter et interrompre. On n'a pas réussi. Poursuivre, informer et renforcer.
Informer,
et
l'ont pas
punir.
Fait.
En fait, on oublie la punition du hacker. On doit aller le chercher. On doit lui promettre une peine énorme, immense, à la hauteur du nombre de données qu'il a volées. Je sais même pas si nos lois sont très
adaptées aujourd'hui.
Il y a des peines lourdes pour les hackers.
Sur la cybercriminalité, ouais, etc. Bon, il va pas aller en taule pour ça.
Ah bah il devrait.
Bah ouais, mais je pense pas qu'il ira. Mais moi, je pense qu'il faut surtout virer le gars qui s'occupe de la cybersécurité.
On a Soizic, donc on a retrouvé Soizic des Hautes-Alpes. Bonjour. Bah, les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, je crois que je crois que notre système informatique nous-mêmes a été hacké. Le système de téléphone, le 3216.
En tout cas, ce qu'elle demande, d'après les informations que nous avons, c'est que des têtes tombent.
Alors, on réessaye Soizic une dernière fois. On dit jamais 203. Soizic. On l'a pas. Allez, on termine ici. On va regarder la consultation. On a posé la question sur les réseaux sociaux. Le hacking, scandale d'État. Est-ce qu'il faut des démissions, oui ou non? On va voir ce que vous en pensez. Il y a la réunion. Réunion en visio. Ah oui, c'est une réunion en visio. Ce qui serait drôle,
c'est que ce soit hacké, ouais.
C'est que ce soit hacké. Tu sais que tu vois dans les films et que tu es le visage de V pour Vendetta, tu sais, qui arrive comme ça en disant bonjour, je m'invite dans la réunion.
Quitte à être désespéré, autant se marrer. Et vraiment.
Qu'ils aient hacké les coordonnées, tu sais, d'un des ministres. Alors, est-ce qu'on a la réponse sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut que des têtes tombent? Est-ce qu'il faut des démissions? Oui ou non? Dites oui à 93%. Allez, dans un instant, avec les GG, avec les Grandes Gueules, on va regarder ces deux incidents qui se sont déroulés à quelques semaines d'intervalle. Du côté d'Avignon, dans un supermarché où un Irlandais dit à un couple de Juifs « Hitler n'a pas fini le boulot, et si vous continuez, je vous mets une balle dans la tête ». Et puis aux Deux-Alpes, la gérante d'une terrasse d'un petit restaurant qui dit « Écoutez, là, vous êtes trop nombreux, je peux pas, là, j'en ai marre, vous êtes trop nombreux, là, les Juifs, parce qu'il y a un rassemblement ». Il dit pas les Juifs, mais vous êtes trop nombreux. Est-ce que c'est l'antisémitisme, l'haine anti-juive aujourd'hui qui est décomplexée, à ciel ouvert, et assumée, puisqu'il reste face au téléphone, face caméra, comme on dit, 32-16 pour venir en discuter avec les Grandes Gueules.
RMC jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Avec les GG, avec les Grandes Gueules en direct sur RMC et RMC Story, la radio et la télé pour vous, bien sûr, le 32-16 à votre disposition pour réagir, pour parler en toute franchise. Nous sommes avec Fatima Hidbounois, la prof de français, Antoine Diers, le consultant juridique, Charles Consigny, l'avocat. On va revenir sur les derniers incidents qui ont montré que c'était des personnes de confession juive qui étaient prises à partie. Ce qui s'est passé à Avignon, dans un supermarché, il y a 10 jours, c'est arrivé un couple d'Australiens juifs repéré par un homme de nationalité irlandaise. Il est filmé, hein, d'ailleurs, et il dit « Adolf Hitler n'a pas fini le travail ». Ensuite, il leur demande « Dégage », il dit à ce couple « Dégage de ma vue avant que je te mette une putain de balle dans la tête ». On voit toute la haine transpirer dans ses yeux. Et il est face caméra. Et d'ailleurs, via les réseaux sociaux, j'ai vu, il y a eu des reconnaissances faciales et on a identifié cet homme qui habite effectivement en Irlande. Et puis, il y a ce qui s'est passé aux Deux Alpes dans le week-end qui accueille les Deux Alpes, le grand séminaire d'été européen du Beth Lubavitch. C'est une organisation juive qui rassemble plusieurs centaines de personnes. On voit une dame qui travaille dans une buvette. Elle s'adresse à un client qui la filme. Elle se plaint de la présence qui est jugée excessive des personnes de la communauté juive dans la station en disant « Vous êtes trop nombreux, là, sur ma terrasse ». Et puis à côté, il y a une autre dame qui dit « Ouais, ben c'est son commerce, elle fait ce qu'elle veut, si elle vous dit de partir, vous partez ». Voilà ce que disait le client pris à partie, c'est lui qui filme la scène.
Je n'ai pas du tout avalé ses propos, et la communauté juive ne veut plus de ses actes, on en a assez. Je me félicite des communiqués de Laurent Nez et de Aurore Berger, mais j'espère des actes, voilà, des vraies condamnations. C'est certain que ces gens vont continuer à s'en prendre à la communauté juive, que ce soit verbalement ou que ce soit physiquement. Et ça, c'est inadmissible. La France, je lui dois beaucoup. La seule chose que je ne respecterai pas, ce sont ces gens-là.
Alors, est-ce que c'est la haine anti-juive qui maintenant s'est banalisée, t'as ciel ouvert, et peu importe qu'on soit filmé ou pas, on assume, dans les deux cas, des enquêtes ont été ouvertes. Bah, comment le combattre, ça aussi? 32-16 pour en parler avec les avec les grandes gueules. Antoine Dierre, ça.
Le conflit israélo-palestinien a amené chez nous, en France, depuis quelques années, mais encore plus ces dernières années, un climat absolument odieux et un certain nombre d'acteurs politiques ont pu légitimer une opposition à Israël qui glisse chez certains vers un antisémitisme. Et effectivement, on le voit, on a une recrudescence d'antisémitisme. Alors moi, pendant longtemps, j'ai pensé que la France, on serait à distance de tout ça, parce qu'on n'est pas concerné par ce conflit. Mais l'immigration a importé des conflits chez nous avec lesquels on est désormais obligé de vivre. Alors, on ne doit pas tolérer toutes ces formes de haine. Et pour tous les propos supposément racistes, etc., la gauche est toujours en tête pour tomber sur le bonhomme qui aurait tenu un propos raciste. Ben, je trouve que sur l'antisémitisme, la gauche est plus aussi forte qu'elle l'était avant pour dénoncer de manière très claire. Donc, moi, je pense qu'on doit renouer avec une lutte pied à pied contre tous les propos racistes et antisémites, et qu'on doit sortir de l'ambiguïté de ceux qui, au nom du conflit israélo-palestinien, trouvent des raisons de s'opposer à des personnes qui sont de confession juive.
Fatima.
La dame de la buvette, elle n'a pas l'air d'être une immigrée, ou elle ne parle pas du conflit israélo-palestinien, là, dans la vidéo qu'on a pu voir. Donc ça dépasse largement, à la limite...
Elle
ferait un acte politique vous êtes Israël.
C'est tout aussi absurde, mais au moins on commence à.
On saurait où on va.
Voilà, mais là c'est encore pire. Moi je te dis c'est pire, et c'est toutes les haines qui sont intensifiées. Parce que finalement, là, on parle de cette vidéo-là, mais si vous regardez, et ce n'est pas nouveau. En 2016, j'étais déjà aux Grandes Gueules, et là, c'est une personne asiatique, c'était Shaolin Xang, ce tailleur qui avait été tué, et ça a été considéré comme un crime raciste par des jeunes qui l'ont attaqué parce qu'il était chinois, et parce que le cliché raciste, c'était les Chinois ont du liquide sur eux. Et il a été tué, cet homme-là. Et le motif raciste a été reconnu cette fois-ci. On était en 2016. C'est-à-dire que non seulement la haine est désagréable à vivre, c'est le mot, l'euphémisme, mais la haine tue, le racisme tue. Et en ce moment, on a non seulement des infractions, il y a eu 16 400 infractions à caractère raciste en 2025. Mais le truc, déjà c'est beaucoup, mais en fait, il n'y a que 3,5% des personnes qui portent plainte. Donc on est en dessous de ce que c'est réellement. Et ce que j'apprécie moi en ce moment, c'est que les gens filment. Le fait de filmer, c'est très important, parce que des fois quand tu racontes ce qui t'est arrivé, on te croit pas, mais on te croit pas parce qu'on est méchant, parce que en vrai, les gens qui n'ont jamais subi de racisme n'imaginent pas ce que ça peut être. Et lorsque t'es face aux mots, là, par exemple, ceux à qui on a dit Hitler a pas fini le travail, s'il n'avait pas filmé, on ne les aurait pas cru, on aurait dit, mais non, il n'a pas dit ça quand même. Tu filmes, tu montres.
Voilà. Mais tu filmes, tu vois, mais la personne, mais la personne en face, ce qui est dingue, c'est que ça ne l'arrête pas.
Elle a continué.
Moi, c'est ça qui est devenu absolument aberrant et attirant dans notre société. C'est-à-dire qu'elle est là, elle regarde, elle pourrait dire, jeter le téléphone par terre,
ou
tourner et fuir en disant, aujourd'hui, elle assume. Et elle revient même devant le téléphone.
Elle dit ça, elle revient, mais c'est la même chose sur, dans un, il y a deux jeunes femmes musulmanes qui ont été filmées, et la personne est là aussi, à la terrasse d'un café. Dessus, ouais. Non seulement il savait qu'il était filmé, mais la personne a craché sur elle devant. Voilà, elle a craché devant. Tu sais que t'es filmé. Donc effectivement, moi je vous dis, la haine est non seulement en train de s'intensifier, mais d'être assumée aussi. Finalement, on se dit.
Sauf que la haine et cette haine raciste dont tu parles, en donnant un chiffre global, aujourd'hui 70 ou 80% des cas qui sont démontrés ou qui sont aujourd'hui précisés, c'est de la haine anti-juive. C'est ça qui a augmenté de 200 à 300%, Charles Consigny.
Oui, c'est pas que ça. C'est vrai qu'il y a maintenant une haine des musulmans qui est quand même assez, assez déployée aussi et assez banalisée, voire revendiquée de plus en plus. Donc il y a pas que l'antisémitisme. Moi je pense qu'il y a un regain d'antisémitisme énorme à gauche. C'est ça la nouveauté, c'est que l'antisémitisme n'est plus l'apanage de vieilles familles péténistes, pas du tout. L'antisémitisme aujourd'hui, on le trouve pas à la France insoumise elle-même forcément, même si Mélenchon a eu quelques déclarations maladroites, mais en tout cas dans les sympathisants.
Ne serait-ce que sur les
noms de famille.
Les noms de famille, effectivement.
Mais sinon, chez les sympathisants à l'extrême gauche, avec ça s'appuie au départ sur le conflit israélo-palestinien.
Et puis juif, tu es forcément pro-Israël.
Voilà, tout ça est un amalgame.
Absurdité totale.
Il mélange tout ça, donc ça commence comme ça.
Pro-Israël ou pro-Netanyahou.
Effectivement, en postulant, en partant du fait que tous les juifs seraient en soutien à ce qu'a fait Netanyahou et son gouvernement, ce qui quand même n'est évidemment pas le cas. Et puis en fait, c'est un retour de l'antisémitisme qui s'appuie sur les critères les plus classiques de l'antisémitisme, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a une certaine gauche qui considère qu'en gros les juifs seraient des oppresseurs, seraient plus riches que les autres, seraient plus soutenus que les autres par les pouvoirs sous toutes leurs formes, et donc en fait on revient à des espèces de classiques de ce refrain. Et moi je l'observe vraiment. Franchement, chez les zadistes, si tu veux, tu vois, il y a une espèce maintenant d'international de l'antisémitisme, parce qu'on voit que c'est pas qu'en France, hein, c'est en Espagne, c'est dans beaucoup d'endroits.
On l'a vu en Thaïlande, sur les réseaux sociaux en Thaïlande. C'est un couple qui voyage dans une espèce de zoo, et je crois que c'est même un Français, qui tient une espèce de zoo d'animaux exotiques et qui leur dit je veux pas de vous ici. Barrez-vous, je veux pas des gens comme vous, etc. Donc.
Alors après, s'agissant des vidéos, moi je cherchais là. Je le dis pour notre réalisateur qui va me reprocher d'être sur de regarder mon téléphone. Je cherchais du contexte par rapport à cette vidéo parce qu'on a quand même qu'un très court extrait. Mmh. Alors certes l'extrait.
Celle des deux Alpes.
Oui.
Alors celle des deux Alpes.
L'extrait, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un grand
rassemblement de séminaires d'une organisation juive. Je crois qu'il y a 200 ou 300 personnes qui sont là-bas. Et effectivement, cette femme a une buvette, un petit restaurant avec une petite terrasse. Et c'est là où elle dit, bah là. C'est la manière dont tu le dis. Si tu dis, écoutez, excusez-moi, là, j'ai pas beaucoup de table.
Je suis débordé.
Vous buvez votre café.
Oui, mais moi,
est-ce que vous pouvez vous lever et ensuite vous faites de la place aux autres clients. Ça, c'est une chose. Mais si après, si elle dit, ah ben vous êtes là, vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux parce qu'ils sont 200 dans deux Alpes. Je pense qu'il y a d'autres restaurants, mais ils sont
J'aimerais
pas 200
bien avoir
autour
un peu
de.
Plus de contexte.
Ben c'est pour ça que Laurent Nunezi, on va enquêter, on va regarder ce qui s'est passé de manière précise. Mais quand
de même que le gars dans le supermarché.
Ah ben lui, il a été reconnu et retrouvé grâce aux réseaux sociaux.
J'ai lu quelqu'un qui disait, je sais reconnaître un boomer intoxiqué à tous les complotismes de Facebook là, quand j'en vois un. Bah le gars, il est quand même bizarre. Et tu vois bien que c'est un malade mental en réalité. Tu vois bien quand il leur dit, barrez-vous de mon chemin, sinon je vous mets une balle dans la tête.
Oui, mais alors
non, mais voilà ce que je veux dire. Moi, je veux regarder.
Dire que c'est un malade mental, c'est un petit
peu. Moi, j'ai l'impression que c'est
un petit peu trop facile. Ça veut dire, ah bah oui. C'est-à-dire, si le type, il regrette Hitler, t'as forcément un pet au casque. Mais ça veut, tu peux pas te réfugier derrière le pet au casque. C'est une idéologie pour lui, si tu veux. Ça veut dire qu'il est, il baigne là-dedans, dans la haine et dans la détestation de l'autre. Mais on peut pas uniquement mettre ça sur le côté de la maladie mentale. C'est vraiment la haine des anti-juifs qui s'est banalisée et qui est assumée maintenant face caméra, face au téléphone.
Et au-delà de ça, très rapidement, ces vidéos-là, au-delà de cette femme-là, c'est l'occasion aussi de parler de ça, parce qu'il y a plein de moments où c'est pas filmé. Moi, j'ai un élève qui est juif et avec qui je suis en contact sur Instagram aussi. Et la dernière fois, c'est son petit-neveu qui a été attaqué, frappé, insulté. Ça existe.
Pourquoi?
Parce qu'il est juif. Et ça n'a pas fait le tour des réseaux sociaux. Mais lui, il était, et sa famille, quand il m'en a parlé, il était vraiment
traumatisé.
Et son petit-neveu aussi. Donc ça veut dire que même si ce n'est pas la question de cette vidéo-là, c'est bien d'élargir. De la même manière, tout le monde peut constater, mais chacun à son petit niveau, qu'il y a cette haine-là. Vous voyez bien, maintenant, il y a des influenceurs, je pense à Amine le Conquérant, par exemple, qui aime les châteaux. Il s'appelle Amine, il aime les châteaux, il filme. Il reçoit plein d'injures racistes. Maintenant, il les montre. Les gens se rendent pas compte.
Juste sur la tournure du débat, en début d'intervention, j'ai dit que c'était l'importation du conflit israélo-palestinien. Vous m'avez dit non. Ou pas que ça, mais en fait, là, le débat, vous avez tous les deux parlé de la haine anti-juive.
Oui.
Et tu as évoqué la haine anti-musulman.
Et asiatique.
Et asiatique. Et personne n'a évoqué les actes anti-chrétiens. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, il y a des actes antisémites en premier. Juste derrière, t'as les actes anti-chrétiens. Et les actes anti-musulmans, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, viennent bien après, en termes de nombre. Et donc, clairement, je pense que notre débat est faussé, qu'on se fait avoir par cette opposition Israël-Palestine, que tout est calculé là-dessus, alors qu'en réalité, la réalité française est un peu différente.
Après, pour moi, que ce soit un chrétien, un musulman ou une personne juive, à partir du moment où tu tues quelqu'un, t'agresses quelqu'un à cause de ses croyances, il y a un problème. C'est-à-dire, moi, je vais en parler exactement de la même manière, avec exactement les mêmes mots et exactement le même logiciel.
Par exemple, notre pays a été très marqué par les attentats islamistes. Tu considères qu'il y a un danger musulman?
Ben, je considère que ça peut déclencher des clichés et qu'une personne, par exemple, effectivement, elle a vu des terroristes, elle a vu musulmans associés à terroristes, ça peut réactiver des clichés racistes. Bien entendu. Après, on peut comprendre le mécanisme.
C'est l'inversion qui me gêne.
On peut comprendre le mécanisme. Et après, il y a des innocents qui vont être.
On a David qui veut intervenir.
Mais pour moi,
David,
c'est plus large et on doit en parler de la même manière. C'est surtout le deux poids deux mesures.
Justement, qui est aux deux Alpes. Bonjour, David.
Oui, bonjour les GG.
Bonjour David, bienvenue. Vous vouliez apporter des précisions justement sur le contexte, comme le disait Charles Consigny, sur ce qui se passe aux deux Alpes, dites-moi.
Bah, moi je voulais vraiment dire, c'est que ici, c'est pas entre 2 et 300 personnes, c'est entre 3000 et 5000. Et c'est du Lubavitch orthodoxe.
Oui, bien sûr, ce que je disais. Ouais.
Donc c'est bon, c'est un peu plus que 200 ou 300.
Moi, j'avais vu 200 ou 300 autour de. Pardon, je me suis peut-être mal exprimé. Autour de du restaurant et de la buvette, quoi. C'est ça.
La buvette, c'est juste une petite buvette à côté de la louche d'été. Et je peux vous dire qu'à la louche d'été, pour le client lambda, pour y accéder, c'est impossible.
D'accord.
Parce que tout le monde est posé là-bas. Alors je vais dire, c'est que nous, on est des goy. Et il y a quand même des problèmes là-dessus.
Ah, mais quel genre de problème?
Vous sentez une tension à ce moment-là quand il y a ce rassemblement?
Il y a quand même une petite tension, c'est des extrémistes religieux.
D'accord, mais comment vous la sentez cette tension?
Ça nous prend de haut, ça parle mal aux petites filles, aux jeunes filles des supermarchés. Enfin, il y a quand même. Il y a une tension, il y a quand même quelque chose.
D'accord.
C'est intéressant de l'entendre aussi.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que. C'est ce que disait Laurent Nunes. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, il a dit attention, il va falloir contextualiser, savoir précisément la manière dont ça s'est passé.
Oui, mais regardez ça. Si une personne juive ou une personne musulmane, une personne chrétienne, est un gros connard, on va parler de son comportement. Si par exemple la personne est méprisante et insultante, le problème c'est la personne. Donc on parle de la personne. Mmh. Elle n'est pas méprisante ou insultante parce qu'elle est juive. Vous voyez, moi si je suis d'une grosse connasse, on va pas dire ça l'arabe. Donc, je suis une connasse parce que je suis Fatima comme individu.
Ce que vous voulez dire, David,
donc, c'est moi, pour moi, là, c'est plus ça justifie la communauté pas. Religieuse.
Non mais David,
si on avait des ultra-cathos ou des...
Ça reviendrait au même, d'accord.
Ce serait exactement pareil.
Mais David, ce que vous voulez dire, c'est que cette dame-là, en fait, elle était débordée par le nombre de personnes et quand elle dit « vous êtes trop nombreux », c'est que ça ne correspond pas à son établissement, c'est ce que vous voulez dire, c'est ça.
Quand ils sont là à 15 à une table, ils prennent un café pendant 4 heures.
D'accord.
Il y a aussi un souci. Oui. Cette dame, enfin, moi, je la connais pas personnellement, mais je la croise de temps en temps. Et je pense pas, là, c'est pour moi, c'est pas un acte, on n'est pas à Avignon, quoi.
D'accord, David.
Et donc, j'aimerais bien revoir aussi la vidéo en entier.
Voilà, il faut la contextualiser quand elle, voilà. Elle les monte du doigt en disant, vous êtes trop
c'est
nombreux.
Pour ça que je demandais du contexte.
Tu as raison. C'est par rapport à mon restaurant, par rapport à l'occupation de mon restaurant. Donc voilà.
Un restaurant, c'est une petite cabane avec 3 tables, hein.
Ouais, c'est 3 tables. Donc c'est pour ça qu'il faut raison. Voilà. Il vaut mieux raison garder et David nous a aidé à recontextualiser. David, je vous remercie d'avoir été avec nous. À bientôt. Dites-moi.
Ouais, je peux juste un petit message.
Bien sûr.
Je voudrais remercier Antoine parce que j'étais à ta chapelle à la bande de Dunkerque et on s'est bien éclaté.
Voilà. C'est toi, David. Ok, top.
Merci d'avoir été. Merci d'avoir été avec nous, David.
Eh ben, merci à vous,
d'avoir été dans les GG, de nous avoir aidé à contextualiser ce qui s'était passé. Dans un instant, le on s'en fout pas. On va revenir sur les droits d'auteur de Jordan Bardella, 1 million d'euros, les universités d'été des partis politiques et le contrôle judiciaire de Patrick Bruel qui a été assoupli. À tout de suite avec les grandes gueules, il est 10h20.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Charles Consigny, Fatima Hidbounois, avec Antoine Guerre. Tout à l'heure à 10h, on évoquera Jean-Luc Mélenchon qui répond, le leader de la France Insoumise, aux attaques contre Ali Diouara et Bali Bakayoko, en estimant que être noir et la France Insoumise, c'est trop pour les suprémacistes médiatiques et que deux élus sont victimes de racisme systémique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? On viendra en parler tout à l'heure avec nous à 10h. En attendant, c'est l'on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Louis Gerbier.
Bonjour les GG, bonjour tout le monde. Le contrôle judiciaire de Patrick Bruel assoupli, on s'en fout ou pas, Fatima?
Non, on s'y intéresse.
Charles?
On ne s'en fout pas.
Et Antoine?
On ne s'en fout pas.
Donc le 21 juillet, le juge d'instruction saisi par les avocats de Patrick Bruel a accordé un assouplissement de son contrôle judiciaire, ce qui lui permet principalement de pouvoir quitter le territoire national. Antoine, pourquoi t'en fous pas?
On s'en fout pas, il a les mêmes droits que tous les autres, et effectivement, il y a un moment on pouvait imaginer que ce serait une cible médiatique et donc qui serait plus maltraité. Alors voilà, moi je me réjouis qu'il ait un traitement normal.
Charles. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont l'information a été connue.
Voilà, c'est ce que j'allais revenir.
Vas-y Fatima, je te laisse le dire.
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, j'aimerais bien demander à Patrick Bruel, comment font les victimes pour avoir, elles aussi, pour alléger leur peine, elles aussi, parce que c'est perpétuité pour les victimes de viol. Donc, moi, j'aimerais bien savoir. Et j'ai l'impression, parce que déjà, on l'a su par hasard, c'est des personnes qui ont vu Patrick Bruel se promener un peu partout, comme ça, dans le monde, et ont envoyé les photos, et c'est Mediapart, il me semble.
Là, c'est bon,
donc,
ça,
ils ont envoyé, et Mediapart a dit, tiens, on va aller creuser un petit peu. Et c'est là, par hasard, qu'on a su qu'il avait eu un arrangement. Mais ça faisait. Oui, mais à la base, on te dit que tu ne dois pas quitter le territoire. Et après, il a demandé, et on lui demande, d'accord, tu peux quitter le territoire.
Il a dû donner des garanties de représentation, etc.
Moi, ça me donne quand même l'impression que la longueur de ta peine est inversement proportionnelle à la longueur de ton bras. Plus tu as le bras long, plus ta peine est courte. Plus tu as le bras long, plus c'est facile d'avoir des petits arrangements. Et ça, moi, ça m'agace. Parce que j'aime bien quand
Antoine,
même une forme de justice.
Le contrôle judiciaire, c'est pas une peine. Le contrôle judiciaire, c'est garantir la représentation en vue du procès. Eh bien, Patrick Bruel a pu démontrer qu'il n'allait pas s'enfuir à l'étranger, qu'il serait présent à son procès. Et donc, c'est du traitement normal. Et tu vois, tu tombes un petit peu dans ce que je dis. Tu veux un traitement médiatique,
non,
parce que c'est Patrick Bruel. Il a le même traitement.
Non,
que tout
moi
le monde.
Je veux, à la limite, si on n'avait pas eu cette interdiction de circuler dès le départ, Et voilà, ok. Là, on nous dit, il n'a pas le droit de circuler, ça fait partie des choses. On annonce ça à l'opinion publique. Et après, en catimini, il y a des petits arrangements pour qu'il puisse le faire. Et sans Mediapart, sans les gens qui prennent des photos, finalement, il y a ce truc. Moi, ce qui m'agace, c'est qu'on prend l'opinion publique, on nous prend pour des idiots. On nous dit qu'on fait des choses et finalement, ce n'est pas fait. Après,
ça ne nous regarde pas.
Le contrôle judiciaire, c'est une mesure technique.
Ça ne nous regarde pas.
Moi, j'aime bien quand même les gens qui prennent en photo Bruel et qui envoient ça à Mediapart en disant, qu'est-ce que vous en pensez?
J'aimerais pas les avoir comme voisins en 40
ans. Ça se fait qu'il se promène, ce Patrick Bruel.
Qu'il pouvait pas se promener, c'est surtout ça.
Oui. Oui, mais enfin, ça dénote quand même une certaine tournure d'esprit, quoi.
Maître Consigny.
Écoute, je ne sais pas qui sont les avocats de Patrick Bruel, mais je ne doute pas qu'il a de bons avocats qui ont obtenu un contrôle judiciaire qui doit être sans doute adapté à ce dossier. Ça ne préjuge de rien. Moi, ça ne me choque pas. Je suis attaché à la présomption d'innocence. Et donc, quand on est présumé innocent, toutes les mesures de contrainte doivent être l'exception. Et ça, c'est quelque chose qui, décidément, est très difficile à intégrer. En particulier, je trouve, en France, aux États-Unis, par exemple, on est beaucoup plus respectueux de la présomption d'innocence. En France, on a cette espèce de volonté toujours d'incarcérer son prochain, qui est toujours là dans un coin, quoi. On aimerait bien que tout le monde soit en taule, sauf nous. Donc, le citoyen doit primer, quand même. Et ça, on l'oublie. Nous, on a intériorisé que c'est l'État qui prime sur le citoyen. Ce serait bien qu'on change un peu de logique.
On y va, Louis.
L'écrivain Jordan Bardella, millionnaire. On s'en fout, on s'en fout pas, Charles.
On ne s'en fout pas.
Fatima.
On s'y intéresse.
Et Antoine.
On ne s'en fout pas.
Avec la vente de ses deux ouvrages seulement, Jordan Bardella a donc empoché plus d'un million d'euros. Charles, qu'est-ce que tu en penses ?
Écoute, je le félicite. Je ne suis pas contre la réussite. Je suis content pour lui. Il a réussi à devenir une espèce de star dont les gens achètent le livre, pas tant pour les lire, parce que ce ne sont évidemment pas des livres qu'on lit, mais pour le soutenir, pour le personnage, pour faire un cadeau, et voilà, pour des livres qu'il n'a pas écrits en plus, c'est-à-dire c'est formidable, il ne les
a pas. Qu'est-ce que tu en sais que c'est pas lui qui les a écrits? C'est une accusation sans fondement.
Ah bah pas du tout. D'abord j'ai mes informations, et ensuite quand je l'ai interrogé sur des passages de son livre, il était bien en peine de me répondre sur Victor Hugo et sur Malraux. Donc je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il les ait écrits. Je te donne mon avis personnel. J'ai écrit 4 livres moi-même. Je sais reconnaître quand c'est écrit par soi-même ou quand c'est écrit par quelqu'un. Donc moi, je trouve que c'est une belle perf pour un livre qui n'a pas écrit et que les acheteurs n'ont pas lu. Je trouve que c'est une belle performance. Et pour de vrai, je suis content pour lui qu'il réussisse. Voilà, je suis pour la réussite. Et je pense que quand on arrive à faire un truc comme ce qu'il a fait, c'est normal d'être payé comme une star, puisqu'il est devenu un peu une espèce de star. Là, j'ai vu sur Instagram qu'il se prenait maintenant pour Napoléon. Il a publié des photos avec les mémoires d'Outre-Tombe, pas les mémoires d'Outre-Tombe, le mémorial de Sainte-Hélène, où il est dans une petite pièce, etc. Donc il se vit sans doute en exil.
En exil.
Bon, ça traduit une puérilité qui montre quand même qu'il n'était pas mûr. Mais chapeau quand même.
Antoine.
Moi, j'ai à peu près le même avis que Charles. Je me réjouis pour lui. Et surtout, en miroir, je pense à tous ces hommes politiques qui pondent des bouses, qui se vendent à 282 exemplaires, etc. Alors qu'ils ont mis leur cœur, quoi. Mais ça n'intéresse personne. Et donc, c'est les livres-objets de stars comme ça qui fonctionnent. On vit une belle époque.
Fatima.
Au moins, c'est pas de l'argent détourné. On va dire ça. Non, mais écoutez, c'est pas de l'argent détourné. Il a, et puis, on dit, c'est le seul auteur en France qui peut vivre de sa plume, mine de rien. C'est tellement dur pour les écrivains en France de vivre de son art. Finalement, il nous donne de l'espoir.
Mais je voyais.
Mais attends, je me moquais pas. Hein. Je suis premier degré quand je dis que je félicite de son succès. Je pense qu'il a réussi à faire un succès. Et ce que dit Fatima ironiquement est une réalité. Ça fait sans doute enrager les écrivains alcoolos des terrasses de la rive droite parisienne qui se prennent tous pour Marcel Proust alors que leur propre mère n'a pas envie de lire ce qu'ils écrivent. Mais c'est une réalité que c'est un gars qui fait vivre une partie de l'édition.
C'est plus un livre, c'est un objet fétiche, c'est un objet de dévotion.
Oui, mais je voyais quelques critiques
raison, en disant
maintenant Jordan Bardella qui se veut le défenseur des petits, des humbles, etc. Quand tu touches un million d'euros, tu vois, de droits d'auteur, est-ce que derrière, tu peux aller voir. Tu vois l'ouvrier.
Et l'ouvrier, c'est compliqué.
Tu peux aller voir le smicard en colère en disant non, mais je vous comprends.
Le même smicard, il va regarder des gens qui jouent au foot et qui gagnent beaucoup plus que ça. Les gens de gauche, ils sont pas pauvres. Mélenchon, à mon avis, je crois qu'il a un peu plus d'argent que ça. Donc,
est-ce que ça le met pas un peu hors sol du coup, Bardella, dans cette histoire?
C'est souvent l'argument qu'on donne. Moi, je pense que l'argument, il est pas complètement valable. On dit ça aux influenceurs aussi lorsqu'ils commencent à gagner leur vie, dire ah ben voilà, tu nous ressembles plus. On n'est pas obligé de ressembler aux gens, d'avoir la même vie pour être sensible à une cause. On n'est pas obligé d'être un médecin n'est pas forcément malade. Vous voyez le truc. Donc cet argument-là, déjà, il va pas être valable longtemps. Et puis en plus, ce qu'on demande, c'est pas forcément d'être pauvre, c'est d'être à l'écoute des gens. On ne demande pas aux politiques, on ne demande pas aux gens.
Dans sa Porsche, le moteur parfois se calme, et donc je pense qu'il entend à l'extérieur la souffrance populaire.
La souffrance populaire.
Au volant de sa Porsche.
Non, mais vous voyez.
Au Grand Prix de Monaco, de loin, je pense qu'il entendait la souffrance
avec la princesse.
Ouais, mais de loin, parce qu'il y avait le bruit des Formule 1, quand même. Et comme c'était la tribune VIP, t'étais en hauteur. Mais je pense qu'il entendait quand même.
On enchaîne, Louis.
Les universités d'été des partis politiques vont bientôt débuter. On s'en fout ou pas, Fatima?
Je laisse mon temps de parole, oui.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas.
Alors, la France Insoumise ouvre le bal jeudi avec ses amphis qui se déroulent à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence, dans la Drôme. Ensuite, ça sera le Parti communiste du 21 au 23 août à Toulouse. Et le campus PS se tiendra à Blois le 28 et 29 août. Et puis pour les écologistes, on ira à Grenoble du 20 au 23 août. Et en parlant des écologistes, Marine Tondelier, ce week-end, a dit que nous sommes prêts à rediscuter avec tout le monde à gauche, sans exclusive. Elle tend donc la main aussi bien au PS que à LFI. Charles, pourquoi tu t'en fous pas?
Non, mais je remarque que les responsables politiques professionnels et les partis politiques traditionnels ont vraiment beaucoup, beaucoup de mal à intéresser les gens et à les convaincre que ce sont eux qui ont les solutions pour essayer de faire survivre ce pays. Donc je pense qu'il faut inventer en fait des nouvelles façons de faire de la politique, mais que tout ça, alors ça paraît bateau parce qu'on dit ça tout le temps, mais en même temps, franchement, par exemple, quelqu'un comme Marine Tondelier, honnêtement, pour moi, n'apporte rien au débat politique. C'est-à-dire que c'est trop agressif, répétitif, biaisé, ça manque d'objectivité, ça manque d'expérience. Ah bah,
ça manque d'objectivité, forcément. Quand t'es dans un parti politique, tu as une ligne.
En fait,
pas objectif,
je pense
ta ligne, ton idéologie.
Je sais que c'est très chronophage la politique et tout ça. Ça fait d'ailleurs aussi sa noblesse, c'est que ça prend un temps fou pour assez peu de gains finalement. Hein. C'est vraiment un engagement. Bah, non, mais c'est une réalité. Si tu passes le même temps. Celui que tu passes à être chef de parti, si tu le passes à être trader à Dubaï, crois-moi que plus désintéressé d'être chef de parti. Mais ça ne nous convainc plus. Voilà. Il y a quelque chose, je pense que c'est tout simplement l'état du pays qui fait qu'on se dit qu'en fait, ils savent pas faire. Et donc, leurs universités d'été, ça fait un peu club de la loose, quoi. Ce qui est injuste pour eux.
30 secondes,
Antoine. Ouais, vous connaissez mon affection toute particulière pour Marine Tondelier, avec qui j'ai eu quelques échanges sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est Marine Tondelier qui m'a vraiment estomaqué après avoir donné des leçons de morale, après avoir essayé d'incarner une ligne différente, se rendant compte qu'elle ne décolle absolument pas dans les sondages, qu'elle ne représente à peu près personne. Eh bien, elle nous indique aujourd'hui tranquillement qu'elle serait prête à dealer avec Mélenchon, à condition, vraisemblablement, d'après ce qui se dit dans les off, qu'on lui trouve une bonne circonscription pour être élu. Eh bien voilà, je pense que la gauche va nous régaler après nous avoir dit qu'il ferait de grandes choses. En réalité, ils vont tous rentrer à la niche Mélenchon.
Dans un instant, Jean-Luc Mélenchon, justement, Bali Bagayoko et Ali Diouara font l'objet d'un racisme systémique de la part des suprémacistes médiatiques. Est-ce qu'il a raison, Jean-Luc Mélenchon? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.